suffit plus, c'est votre nouveau pamphlet. Je rappelle que vous êtes l'icône de la gauche radicale. Alors, il y a un diagnostic sur Donald Trump. Donald Trump, vous le voyez comme une marque qui vend l'impunité associée à l'argent. Il est l'incarnation ultime du capitalisme du désastre. Il vit dans une forme de réalité parallèle qui lui permet de contester les faits et la science et les informations, par exemple. Et par-dessus tout, il a une stratégie, la stratégie du choc. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se manifeste, cette stratégie du choc?
Well, Trump is a shock machine.
Eh bien, Trump, c'est une machine à choc. Tous les jours, il y a trois ou quatre chocs et tout le monde sait, mais vous vous rendez compte de ce qu'il a tweeté, de ce qu'il a dit? C'est la même chose pour son gouvernement. Tout cela est très déstabilisant. Donc, moi, j'ai écrit sur la stratégie du choc par le passé. Donc là, il s'agit d'un événement très choquant, par exemple un attentat terroriste, une crise économique, quelque chose qui va pousser des politiques pro-corporation. Donc avec Trump, j'appelle ça la doctrine schlock en fait en anglais. C'est vraiment comme un soap opéra qui se déroule à la Maison Blanche. Donc on dit que c'est très bien, ça crée des clics, etc. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que tout ce qu'il fait pour aider les grandes entreprises est en train de se passer en coulisses. C'est très ennuyeux par rapport au show Trump. Ça n'attire que très peu l'attention, tout ce qu'il fait au niveau de la fiscalité, au niveau de la dérégulation financière, évidemment. Tout ça, c'est très ennuyeux par rapport au show Trump. Donc ça, vraiment, c'est ce qui se passe.
On comprend, schlock doctrine.
Donc sans parler de fake news, pendant que nous nous indignons des frasques de Trump et que nous le traitons comme une aberration, en réalité, il a un agenda. Vous parlez d'un coup d'État des multinationales, vous parlez de l'achèvement de la prise de pouvoir par un certain capitalisme qui s'est construit sur l'exploitation et la destruction des ressources humaines, et nous ferions mieux, nous médias, de regarder cela, au lieu de faire des hauts et des haïs et des indignés.
Effectivement, ce serait bien qu'il y ait plus d'attention médiatique portée sur l'agenda politique de Trump. C'est très différent du programme sur lequel il a fait campagne. Il a dit qu'il allait défendre les ouvriers, qu'il allait ramener les emplois, qu'il allait défendre la sécurité sociale, l'assurance maladie pour ces gens-là. Et comme il est très riche, il a dit qu'il serait le premier politique à être totalement séparé de certaines influences, par exemple Goldman Sachs, etc. Et tous ses opposants, et Hillary Clinton, étaient des personnes qu'il a accusées d'être dans la poche de Goldman Sachs. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a nommé 5 membres de Goldman Sachs dans son cabinet.
Du pouvoir de la grande banque d'affaires aux États-Unis. Traduction pour les Français.
Sure.
Absolument, oui. Ce n'est pas le premier gouvernement qui serait influencé par Goldman Sachs, mais vraiment, le degré de cette pénétration est extrêmement important. On a l'ancien PDG d'Exxon, qui est le secrétaire d'État. Et en fait, il a fini par prendre plus d'argent des grandes corporations que n'importe quel autre président américain. Donc il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, et ce serait très très intéressant que les médias s'intéressent à cela. On parle tout le temps de la Russie, et ça, ça ne nuit pas à sa base d'électeurs et de soutien. Ils ne croient pas à ça, ils pensent que ce sont des fake news, et ils ont leurs propres idées, tout ce qui concerne Hillary, les escrocs, etc. Mais vraiment, les points économiques, ça peut
plaire
à Trump.
Pendant que Donald Trump fait de manière assez intelligente diversion, on peut se demander ce que fait la gauche américaine. Nadia, vous vouliez poser la question à Naïm Klein.
Oui, cette gauche américaine est inaudible, invisible, décomposée dans tous les sens du terme. On l'a vu, Hillary Clinton n'a toujours pas fait son autocritique après son échec cuisant à l'élection présidentielle. Il y a des divisions très fortes entre les modérés et les progressistes. Ils ne sont d'accord sur rien, ni sur l'écologie, ni sur le libre-échange, et ça n'échappe pas aux électeurs, parce que d'après un sondage du Washington Post, seuls 37% des Américains pensent que le Parti démocrate défend quelque chose. Si la gauche américaine devait faire une chose pour se rassembler et se relever, ce serait quoi, selon vous?
Mais je crois qu'il y a quelques signes d'espoir, surtout en ce qui concerne la santé, l'assurance maladie. Moi, je dis que non, ça ne suffit pas. Pourquoi? Eh bien, la raison pour laquelle Donald Trump a été élu, c'est parce que les gens sont en colère, ils voient que le système ne fonctionne pas. Et sur ce point, ils n'ont pas tort. Donc défendre le système contre Trump, finalement, ça ne permet pas de traiter, de répondre à la colère des gens. Donc en ce qui concerne la assurance maladie. Vous le savez, les républicains sous Trump ont essayé donc de retirer cette assurance maladie à des millions d'Américains, ce qu'on appelle Obamacare. Ce qui fonctionne, en fait, c'est que, en plus de la résistance, maintenant, il y a une dynamique pour avoir donc une assurance maladie universelle avec un payeur unique. Donc, ce sont des choses qui ont été défendues par Bernie Sanders. Il faut que ce soit sur tous les fronts. En même temps, il faut résister aux idées horribles de Trump et en même temps proposer quelque chose qui soit plus ambitieux, plus enthousiasmant que ce qui a été mis sur la table au début pour le climat, pour l'immigration. Pour tout.
La COP23 s'est ouverte hier à Bonn, d'ailleurs en présence des autorités des îles Fidji de manière extrêmement symbolique et pas que aussi concrète car ils redoutent d'être submergés. Donald Trump a quitté les accords de Paris au nom de l'emploi en disant « je veux favoriser, préserver l'emploi ». Derrière cette explication, y voyez-vous en réalité une volonté de permettre au capitalisme financier de continuer à se goinfrer? L'emploi n'est-il qu'un fauné en quelque sorte?
Effectivement, oui. Ce qui se passe dans le gouvernement de Trump, c'est qu'à chaque fois, il a fait d'énormes cadeaux aux industries de l'énergie fossile. Ils ont nommé Scott Pruitt, par rapport donc à l'Agence de protection environnementale. Et ce qui se passe, c'est que Scott Pruitt fait énormément de choses à la tête de l'Agence de protection environnementale. Depuis l'élection de Trump, le lendemain du jour où il a dit qu'il se retirait de l'accord de Paris, il a dit qu'il avait été élu par les habitants de Pittsburgh, pas de Paris. Ensuite, il y a eu le maire de Pittsburgh qui a eu sa conférence de presse et qui a dit, bien en fait, les habitants de Pittsburgh, eux, ont voté pour Hillary Clinton. Et donc, il a promis que Pittsburgh serait une ville 100% basée sur les énergies renouvelables d'ici 2025. C'était encore plus ambitieux que ce qu'Obama avait proposé à Paris, plus ambitieux que n'importe quoi d'autre. Et c'est ce type d'objectif ambitieux dont on a besoin si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Ce que fait Trump, c'est très dangereux. Il ne maîtrise pas tout. Et parce que ce qu'il fait est tellement dangereux, tout ce qu'il ne maîtrise pas, que ce soit les villes aux États-Unis ou les pays comme la France, eh bien tous ces acteurs-là doivent faire encore plus. Ça ne suffit pas de dire il faut rendre la planète encore plus géniale.
Une dernière toute petite question, Claude, si vous pouvez.
Ça fait des années que vous analysez avec justesse ce qui est en train d'arriver. Et pourtant, la marge du capitalisme financier continue. Est-ce que vous ne redoutez pas, à force de ne pas faire de politique, juste de devenir d'un de ces personnages bibliques, c'est la prophétesse qui annonce le mal, mais qui ne peut pas l'empêcher?
En un mot, pourquoi ne vous présentez-vous pas à des élections aux États-Unis? C'est ça que voulait dire Claude.
Je parlais de prophétesse biblique aussi.
Well, first of all, I live in Canada, so
I don't think j'habite au Canada, donc je ne crois pas que ça fonctionnerait. Mais je travaille avec les politiques, que ce soit Jeremy Corbyn au Royaume-Uni, ou avec des autorités locales.
Il n'y a plus personne.
Non, pas en France.
Très bien, merci Naomi Klein. Dire non ne suffit plus.